Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
C'est vrai que les freins intérieurs, moi c'est eux qui m'ont le plus désarçonné en réalité. Je pense que je m'attendais, quand je mettais les pieds dans ce monde des matières premières, je m'attendais quand même à un monde masculin, donc je m'attendais à ce que ce soit peut-être un petit peu, voilà. En revanche, ça a été une vraie surprise pour moi de m'apercevoir que je pouvais moi-même être ma propre ennemie, quelque part, c'est-à-dire mon propre frein. De m'apercevoir que moi-même, j'avais du mal à assumer mon travail, j'avais du mal à défendre mon travail, j'avais du mal à reprendre la parole quand on me la coupait, j'avais du mal à demander ce que je voulais, je me sentais pas légitime pour faire certaines choses, je trouvais que même si sur les faits c'était pas vrai, ben j'accordais moi-même plus de crédit à ce que pouvaient dire certains collègues, et moi je me trouvais tout le temps des excuses pour ne pas m'exprimer, pour ne pas y aller, pour ne pas demander. Donc en fait, je me suis rendu compte que moi-même je m'imposais des freins et moi-même en fait je nourrissais ce complexe de l'imposteur. En fait, j'avais l'impression que j'étais jamais assez bonne, quoi. Au-delà du fait que ce soit pénible et un vrai travail à plein temps, ça a une vraie fonction économique. C'est-à-dire, il faut pas se leurrer. C'est de la vraie création de valeur d'élever des enfants. Seulement, c'est de la création de valeur indirecte. Mais moi, je trouve que c'est le fait de s'occuper de ses enfants à domicile. Tu contribues autant à la société que, voire plus, en fait, beaucoup plus que de faire un bullshit job payé, X mille, voilà.
Épisode en résonance avec une citation de Camille Sfez que j'ai déjà eu la chance de recevoir dans mon podcast. C'est le patriarcat qui a fait croire aux femmes que pour être libres et épanouies, il fallait être comme des hommes. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que cette phrase elle est particulièrement vraie dans le milieu du travail. Finalement, que faut-il savoir pour que notre genre ne soit pas un poids dans notre parcours professionnel ? Mon invité s'est attaqué au sujet avec brio à travers un ouvrage récemment paru qui s'intitule Les règles du jeu, ce que l'on devrait toutes savoir pour réussir au travail, paru aux éditions Dunod. Il y a de l'impact positif dedans, tout simplement. L'auteur donne des clés très concrètes à travers son témoignage au sein du milieu du trading de matières premières et permet ainsi d'aider sa prochaine et son prochain finalement, parce que cette question concerne tout autant les hommes que les femmes. Alors, un conseil, lisez-le. Durant cet épisode avec Lara, nous avons bien entendu évoqué son livre, dans lequel elle aborde énormément de thématiques, dont le syndrome de la bonne élève, le syndrome de l'imposteur, de la différence entre pointer un problème et passer à l'action pour trouver une solution concrète, du salariat, de la différence entre ce que l'on apprend à l'école et ce qui est vraiment utile au quotidien dans le travail, de l'autonomie psychique, des freins extérieurs et intérieurs que nous avons toutes expérimentés finalement à un moment ou un autre de notre carrière, de l'idée de rémunérer les mères au foyer ou pas, et de ses coups de cœur. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à la talentueuse Clara Mollet, spécialiste des matières premières, advocate de l'égalité au travail, conférencière, auteur. Clara, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. À vrai dire, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais et ce que tu continues, enfin ce que tu as fait et ce que tu continues de faire. Et je t'ai connue à travers les règles du jeu. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qui tu es, enfin te présenter et nous expliquer un peu plus ce que sont les règles du jeu?
Oui, bien sûr. Bah, bonjour Estelle, merci pour cette invitation sur ton podcast. Je suis ravie d'être là. Donc je m'appelle Clara, j'ai 32 ans. Je suis donc une femme française et je m'apprête à devenir maman pour la première fois. Voilà pour
les grands... félicitations de nouveau.
Merci donc pour les grands tressaillons de ma vie personnelle et sur un plan plus pro professionnel. Donc moi j'ai commencé ma carrière dans un domaine un peu particulier, des circonstances un peu particulières, parce que j'ai commencé à travailler au Brésil en négoce de matières premières. Donc c'est un monde et un cadre pour commencer à travailler un peu spécial, que j'ai adoré et sur lequel je pourrais revenir. Et en fait la particularité de ce parcours-là, c'est que je me suis retrouvée à être la seule femme à exercer ma fonction sur mon marché. C'est-à-dire j'étais la seule femme trader de matières premières à Sao Paulo au moment où j'y étais.
Ouais.
Et en fait, cette expérience-là, elle m'a complètement ouvert les yeux et fait prendre conscience de l'impact du fait d'être une femme sur un parcours professionnel. Mmh. Et à partir de cette expérience-là, qui a été à la fois très rapide et très vraiment très impactante pour moi, j'ai eu à cœur de en fait transmettre tout ce que moi j'avais pu apprendre en un temps assez court. Tout ce que moi j'avais pu mettre en place, parce que ce dont je me suis aperçue, c'est que non seulement ça avait un impact d'être une femme, mais ça avait un impact qui pouvait être négatif, c'est-à-dire ralentir, entraver un peu une progression, parce qu'il existe à la fois des freins extérieurs et des freins intériorisés qui nous empêchent.
On va y revenir, ouais. Parce voilà. Que j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus, ouais.
Ouais. Et du coup, ces prises de conscience-là, j'ai eu à cœur de les verbaliser, de les transmettre, et surtout de transmettre l'idée que c'était pas non plus une fatalité. Et qu'il existait des choses qui étaient tout à fait possibles à mettre en place, que tout le monde pouvait s'approprier pour éviter que l'écart se creuse, et se creuse vite. Donc les règles du jeu sont nées de ce désir-là que j'avais de m'exprimer sur le sujet et de partager mon expérience, en fait, de témoigner d'abord. Donc, dans un premier temps, ça a été un podcast. En fait, c'est sorti en, ça a un an, ce podcast. C'est un format que j'ai voulu très court parce que donc c'est 10 fois 5 minutes. Parce que c'était important pour moi que ce soit hyper, tu vois, facile d'accès, etc.
Donc, c'est...
Exactement. Et donc, ce podcast-là, voilà, c'est un petit peu tout ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé à travailler.
C'est ça.
Les 10 grandes règles
du jeu.
Ouais. Et c'est un peu ce qu'on devrait toutes savoir et qu'on ne nous dit pas, en fait, sur le monde du travail, comment ça marche.
On n'apprend ni à l'école, ni à la maison.
Exactement.
Ni dans nos stages.
Ouais. Et qu'on découvre, enfin, que moi, en tout cas, j'ai découvert de but en blanc en débarquant, en entrant vraiment sur le marché du travail. Et en fait, ce podcast-là a bien fonctionné. Et donc, j'ai eu la chance ensuite qu'une maison d'édition me propose d'en faire un livre. Qui s'appelle aussi Les règles du jeu et qui est sorti donc le 4 mars 2020 aux éditions d'Uno. Donc le timing est intéressant parce qu'il est sorti juste avant le confinement. Donc ça, c'est une expérience aussi intéressante d'avoir un livre, comment on fait quand on a un projet aussi important qui sort juste avant la plus grande crise socio-économique du siècle. Comment est-ce qu'on se réinvente, quoi, en période de crise? Ça, c'est un vaste sujet aussi. Mais donc, voilà. Donc, les règles du jeu, c'est un petit peu la philosophie que moi, j'ai développée à partir de mes expériences professionnelles. Comment reprendre la main sur son parcours? Comment éviter que l'écart se creuse? Et comment éviter que notre genre soit finalement un poids sur notre parcours professionnel? Mmh. Voilà.
Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Justement, on parlait des freins extérieurs et des freins intérieurs. Moi, j'ai une conviction, c'est que les freins intérieurs sont peut-être supérieurs aux freins extérieurs. Après, je peux me tromper. Tu dis dans ton bouquin, parce qu'on parle du livre hein, quand même aujourd'hui, tu as fait un livre, je crois que tu l'as sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Rappelle-moi la date exacte, je crois que c'était le 4 mars. Voilà. Moi, j'ai beaucoup apprécié ton livre parce que tout comme le podcast, il est très simple, très accessible, faits qui peuvent se rapprocher pour rassurer les gens, elle peut être complètement duplicable pour plein d'autres situations. Et ce que j'aime aussi, c'est la dimension commerciale qu'il y a dans ton travail. Tu vois, enfin, t'avais quand même ton boulot par essence, puisque c'est du trading de matières premières, forcément, il y a une part commerciale, il y a une part, j'aime pas le terme, mais un peu masculine au sens où, bah oui, t'étais dans un environnement très masculin, etc. Donc, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dupliquer facilement quand on est une femme. Et tu dis à un moment, moi j'ai adoré ce... Tu me permets de lire un passage ou pas ?
Oui, bien sûr.
Dans le fait de prendre la parole en public, de savoir dire non ou de demander une augmentation, il n'est pas question que de carrière. Il est question de rapport à l'autorité, à l'argent, de désir de plaire, de faire plaisir, de la crainte de déranger, de décevoir ou d'être rejeté, d'inconscient collectif et de siècles d'histoire. Moi, je trouve ça magnifique parce que je trouve que ça résume assez bien ce que chacune peut vivre à un moment ou à un autre dans sa carrière, que ce soit pour demander une augmentation, pour négocier son salaire, pour changer de poste, pour s'imposer, pour arriver en réunion et pas avoir l'air complètement décontenancé par une prise de parole. Mm-hmm. Donc vraiment, est-ce qu'on peut juste, selon toi, les grands freins, on va dire extérieurs et intérieurs, ce sont lesquels, sans dévoiler la globalité de ton livre, mais si t'avais voilà quelqu'un en face de toi, moi en l'occurrence, mm-hmm. puisqu'on enregistre à distance, tu dirais quoi?
Alors j'aime beaucoup l'extrait que t'as choisi parce qu'il est il est hyper en fait il incarne très bien le mindset de tout le livre. Ouais. En fait l'idée de ce passage là c'était de dire qu'en fait les freins en tant que tels ils sont essentiels à identifier. Ouais. Parce que mettre des mots c'est le tout premier pas. L'identification en fait des situations, c'est le début du processus qui permet ensuite de s'en libérer, de s'en affranchir, de savoir les gérer, les dépasser. Simplement, ce que j'ai voulu en fait dire dans ce passage-là, c'est qu'ils sont aussi extraordinairement complexes. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu identifies les freins que tu les résous. C'est pas parce que tu arrives à pointer du doigt en disant bah voilà là par exemple ce qui se passe c'est le syndrome de l'imposteur qui m'empêche d'agir ou alors c'est le syndrome de la bonne élève qui me freine etc. C'est pas parce que tu arrives à reconnaître que pour autant tu arrives ensuite à passer à l'action. Et en fait dans le livre évidemment je parle de ces freins, enfin c'est absolument impossible de ne pas en parler quand on parle de d'être une femme au travail parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Et pour autant c'est pas forcément suffisant pour savoir ensuite que faire ou que faire de ces constats quand on se retrouve ensuite soi-même de nouveau assis à sa place devant son ordinateur à devoir gérer ses mails, son chef, ses coups de téléphone, etc. Et en fait, tout le mindset du livre, c'est ok, il y a ces freins, ils existent et on va en parler, c'est essentiel. Mais pour autant, passer du constat qu'ils existent à l'action, c'est-à-dire à savoir ensuite que mettre en place soi à sa propre échelle pour s'en affranchir et pour les dépasser, là c'est tout autre chose. Et en fait, le gros travail que j'ai fait sur ce livre, c'est la partie comment, la partie action. C'est une fois qu'on sait qu'il y a ces freins, c'est essentiel de les identifier, mais pour ensuite s'en affranchir et les dépasser, là c'est encore une autre histoire. Et moi je sais qu'en fait, le point de départ, vraiment l'élément déclencheur qui m'a donné envie d'écrire, parce qu'on peut se demander pourquoi moi je me suis emparée de ce sujet, et on est tellement nombreuses à vivre ces expériences-là, à faire ces constats-là, et puis il y a tellement de littérature sur le sujet, etc. Pourquoi est-ce que moi j'ai cru pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice sur le sujet d'être une femme au travail? C'est parce que je trouvais qu'il manquait justement, sur cette littérature-là, le comment. C'est-à-dire qu'on trouve énormément de choses sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que les femmes n'avancent pas? Pourquoi est-ce qu'il existe encore des inégalités salariales? Pourquoi est-ce que les femmes ont plus de difficultés à se mettre en avant, etc., etc. On l'explique très très bien maintenant, et ça remonte à la petite enfance, parfois même encore plus loin, etc. On peut débattre des heures sur le système éducatif, etc. Pour autant, une fois qu'on a fait ces constats-là, ok, so what, qu'est-ce qu'on fait? Comment je fais, moi, à mon échelle, aujourd'hui, pour y répondre et pour, en fait, faire en sorte de vivre pleinement ma carrière, parce que c'est quand même ça le sujet. C'est-à-dire que si on attend que tous ces blocages sociétaux, culturels, se défassent, ça peut prendre encore des générations. Or, nous, le sujet de notre carrière, il est quand même très urgent. Le fait de savoir si on va réussir à s'épanouir, comment s'épanouir professionnellement, comment arriver à notre prochain meilleur pas, etc. C'est aujourd'hui que la question se pose. Et donc je trouvais là qu'il y avait vraiment un manque. Je trouvais que aucune des lectures que moi en tout cas j'avais faites ne permettait de répondre à cette question. Ok, mais comment moi je peux faire? Et donc c'est vraiment là-dessus que je me suis vraiment concentrée dans ce livre-là. Et donc pour revenir aux freins en eux-mêmes, effectivement, bah c'est quoi les freins? Alors les freins extérieurs, ils dépendent de ton environnement de travail, évidemment. Moi, je peux parler de ce que j'ai connu. Moi, je sais que dans un environnement masculin comme celui que j'ai fréquenté, ça se traduisait tout simplement par déjà par un espèce de déficit naturel de crédibilité. C'est-à-dire que je voyais bien, tu vois, en plus c'était vraiment une caricature parce que j'avais un collègue masculin qui était rentré en même temps que moi et qui avait vraiment le même niveau, la même seniorité, même expérience, c'est-à-dire zéro d'expérience parce qu'on était ultra junior quand on a commencé. Et ben je voyais bien que pourtant son travail à lui, ses opinions comptaient davantage aux yeux de nos supérieurs que le mien. C'est-à-dire que moi, d'office, il y avait comme une espèce de soupçon, ou en tout cas, enfin, une présomption plutôt qu'un soupçon de manque de légitimité. Je voyais bien que ma parole comptait moins, que mon travail comptait moins.
Tu mets pas ça du tout sur le compte de la culture, qui était une culture en dehors de d'Europe. Enfin, ça n'a rien à voir selon toi ?
Eh ben, franchement, je pense pas. Je sais que oui, c'est sûr que le Brésil, c'est un pays qui reste paternaliste. C'est sûr qu'il y a ça. Et pourtant, je suis pas certaine que ça se serait passé radicalement différemment si j'avais commencé à travailler ailleurs. Honnêtement, parce qu'en fait, certains éléments culturels compensent d'autres éléments. Enfin, la culture sur ce plan-là. En fait, je vais te dire, en plus, je pense que le fait d'avoir été étrangère m'a beaucoup servi. Parce que j'étais tellement, je pense, éloignée un peu, tu vois, culturellement des femmes brésiliennes, que quelque part, ça m'a un peu, j'allais dire, ça m'a un petit peu protégée. C'est-à-dire que moi, je pense que je les ai beaucoup déroutées. J'avais une attitude qui, effectivement, était pas celle qu'ils pouvaient attendre d'une femme, parce que, voilà, j'avais des réflexes ou des comportements qui étaient pas ceux des femmes brésiliennes. Et du coup, ça les a peut-être un peu désarçonnées au début, mais ça a fait qu'ils me voyaient pas que comme une femme. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a beaucoup protégée sous cet aspect-là. Ouais. Et donc, au final, je pense que ça a pas, je l'ai pas vécu comme ça, en tout cas. Je l'ai pas vécu comme ça.
Ok. Oui, donc tu disais, tu te rendais compte que par rapport à ton collègue, ton avis comptait moins automatiquement.
Il y avait cette espèce de déficit-là, le fait qu'on me coupe plus volontiers la parole, par exemple, quand je la prenais, le fait que on me staffe moins directement sur les projets un peu à fort enjeu. Ça allait plutôt directement à mes collègues masculins, et puis moi, je me retrouvais plus volontiers avec les tâches un peu plus rébarbatives, un peu plus, tu vois, qui avaient moins d'impact sur le business. Tu vois, c'était des choses comme ça. Il y avait comme une espèce de deux poids deux mesures. Naturel, qui n'était pas du tout.
Pas méchante en plus.
Non,
ouais,
voilà.
Mais qui n'est même pas intentionnel.
Exactement. Méchant. Et c'était ça en plus qui était d'autant plus désarçonnant, c'est que je voyais bien qu'il n'y avait pas du tout de volonté de me nuire. C'était vraiment naturel. Et ça, ça m'a beaucoup désarçonné de me rendre compte qu'en fait, naturellement, et sans doute inconsciemment pour eux, il y avait une espèce de différence de traitement, qui allait de soi, quoi. Donc ça dépend évidemment, ça dépend des environnements de travail. Moi, pour moi, ça s'est passé comme ça. Mais je pense que si je m'étais retrouvée dans d'autres circonstances, c'est-à-dire dans un environnement où j'étais moins en minorité, où effectivement peut-être culturellement l'écart aurait été moins grand, etc. Eh ben, j'aurais mis beaucoup plus de temps à m'en apercevoir de ces freins extérieurs, parce que ça aurait été plus masqué, tu vois, ça aurait été un peu plus dilué, diffus. Là, vraiment, ça m'a sauté aux yeux parce que j'étais dans cette situation-là, et que forcément, ces situations, je les ai vécues très vite, de façon très intense, et ça m'a permis ces prises de conscience très rapides. Mais voilà, je pense que le fait de sentir qu'on n'a pas le même poids, qu'on n'a pas que notre travail n'a pas forcément la même assise, en fait, que celle d'un collègue masculin, moi, ça a été des freins, ça a été vraiment une espèce de choc de réalité très fort, ça m'était jamais arrivé avant, quoi. Et les freins intérieurs, moi je te rejoins complètement, les freins intérieurs, ça a été, je pense, une encore plus grande. Donc en fait, ça, les freins extérieurs, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, en fait, tout simplement. Enfin, c'est les
j'en avais parlé avec Valentine de l'Astéry.
Voilà.
Mais les biais cognitifs, on peut les avoir même quand on est femme ou homme.
Absolument.
Enfin, ça n'a rien
absolument
à
dire. Ça inclut les hommes comme les femmes. C'est pour ça qu'en fait, souvent, on peut nous aussi reproduire en fait des schémas dont on est nous-mêmes victimes sans nous en rendre compte, quoi. Mais voilà, ces biais cognitifs, ils existent et ils peuvent être évidemment, enfin c'est très très fort, quoi. C'est aussi lié, enfin c'est tout le sujet, tu sais, de la perception plutôt négative du succès féminin. Plus une femme réussit, moins elle est perçue positivement, et c'est l'inverse pour les hommes, etc. Donc ça se retrouve à plein de niveaux, et à plein de niveaux hiérarchiques aussi, à plein de moments de la carrière, quoi. C'est vrai que les freins intérieurs, moi c'est eux qui m'ont le plus désarçonné. En réalité, je pense que je m'attendais, quand je mettais les pieds dans ce monde des matières premières, je m'attendais quand même à un monde masculin, donc je m'attendais à ce que ce soit peut-être un petit peu, voilà. En revanche, ça a été une vraie surprise pour moi de m'apercevoir que je pouvais moi-même être ma propre ennemie, quelque part, c'est-à-dire mon propre frein. De m'apercevoir que moi-même, j'avais du mal à assumer mon travail, j'avais du mal à défendre mon travail, j'avais du mal à reprendre la parole quand on me la coupait, J'avais du mal à demander ce que je voulais. Je me sentais pas légitime pour faire certaines choses. Je trouvais que même si sur les faits c'était pas vrai, ben j'accordais moi-même plus de crédit à ce que pouvaient dire certains collègues. Et moi, je me trouvais tout le temps des excuses pour ne pas m'exprimer, pour ne pas y aller, pour ne pas demander. Donc en fait, je me suis rendu compte que moi-même, je m'imposais en fait des freins et moi-même en fait je nourrissais ce complexe de l'imposteur. En fait, j'avais l'impression que j'étais jamais assez bonne quoi pour y aller, et ça a vraiment été une prise de conscience énorme, parce que je m'en étais jamais aperçue. Ça m'avait jamais traversé l'esprit en fait de savoir que moi-même je pourrais un peu me mettre des bâtons dans les roues au travail. Et donc après, c'est les termes, enfin en termes de termes, c'est les termes qu'on connaît: syndrome de l'imposteur, syndrome de la bonne élève, syndrome de la couronne aussi, cette espèce d'attitude assez passive qui consiste à croire que parce qu'on fait bien son travail, les choses vont finir par nous arriver. Pas du tout.
Oui, c'est ça qui est déstabilisant, je crois. C'est on passe de la maison, de la maison à l'école et de l'école au travail en fait, et du coup, on trimballe avec nous. Tout un tas de trucs qui servent plus ou moins pas ou qui peuvent plus ou moins nous bloquer. Et notamment, effectivement, ce syndrome de la bonne élève, moi, j'en ai été victime, clairement, quoi. Enfin, victime, je sais pas si on est victime de ça, mais en tout cas, on cherche à dupliquer les règles de l'école dans l'environnement du travail.
Ouais.
Or, bien souvent, moi, ceux que j'ai vu réussir, c'est ceux qui, justement, n'avaient rien à foutre du cadre scolaire, quoi.
C'est ça en fait, c'est un peu un contresens en fait, c'est-à-dire c'est de continuer à croire que ce qui nous a permis de bien nous en sortir à l'école va continuer à nous servir au travail, et ne pas s'apercevoir qu'on a complètement changé de monde. On a complètement changé de monde, et changer de monde, ça veut dire que les règles du jeu donc ont changé, et que ce qui va nous permettre d'avancer au travail, c'est autre chose. Évidemment, faire son travail, c'est essentiel, mais disons que c'est le niveau zéro de ce qui va nous permettre de progresser, d'avancer, d'apprendre, de rencontrer des gens, etc., etc. Et effectivement, ce syndrome de la bonne élève, moi, j'avais un petit peu de mal avec l'expression au début, parce que j'aimais pas trop qu'on m'explique que j'étais bonne élève. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très désagréable et de très infantilisant dans ce terme. Mais pourtant, en fait, moi, je l'interprète comme continuer d'appliquer ce qui nous a servi à l'école. Et en fait, ce qui nous a servi à l'école, c'est tout simplement de faire ce qu'on nous demande, et seulement ce qu'on nous demande, en pensant que ce sera suffisant. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est d'assimiler en fait sa réussite à la satisfaction de sa hiérarchie, c'est-à-dire de concentrer tous ses efforts sur le fait de satisfaire quelqu'un d'autre que soi-même, alors qu'au travail, en fait, pour avancer, il faut arriver à remettre son intérêt au centre du jeu et raisonner en fonction de soi plutôt qu'en fonction des autres. Et enfin, c'est une forme de passivité. C'est vrai que à l'école, on nous demande pas d'être acteur. On nous demande pas de chercher à prendre l'initiative sur notre parcours scolaire. Puisqu'en fait, les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde et sont ultra transparentes. Dans le monde professionnel, c'est l'inverse. Il faut absolument sortir de l'attentisme, de la passivité par rapport aux instructions qu'on reçoit, et la réussite ou quelle que soit la définition qu'on lui donne, le fait d'avancer en tout cas se trouve toujours du côté de l'initiative, d'aller chercher soi-même ce qu'on veut. Donc ces trois éléments là c'est comme ça que moi personnellement je définirais le syndrome de la bonne élève, quoi. C'est pas juste le fait d'être poli et de sourire, tu vois, c'est beaucoup plus complexe que ça en fait, plus pernicieux.
C'est beaucoup plus pernicieux, ouais. Mais je pense qu'il y a une vraie remise en question du coup de l'école. Enfin, je l'espère, mais pas uniquement de l'école, mais à la limite même des grandes écoles. Parce que à la fac, finalement, à la fac, c'est un peu l'école de la vie, parce que tu te débrouilles un peu. Il y a ce truc, tu sais, de lâcher dans la nature. Tu viens pas, t'es partiel, personne n'en a rien à faire. Bon, tu vois, mais je fais une vraie différence entre l'univers de la faculté et l'univers de l'école, l'école privée, tu vois, au sens post-bac, parce que c'est vrai que beaucoup d'écoles de commerce ou beaucoup d'écoles privées, tout simplement, enfin, je n'incrimine pas les écoles de commerce, mais tu vois, il y a plein de gens qui ont fait des prépas. Alors déjà en prépa, tu vois, t'es déjà très encadré, t'as un rythme, t'as des concours blancs, t'as des trucs, etc. Puis t'arrives ensuite en école de commerce, là, pareil. T'es quand même tenu par un cadre très spécifique, même si tu fais beaucoup la fête, mais t'as quand même un cadre. Alors que, et du coup, ce cadre, tu vas l'importer avec toi dans le milieu de l'entreprise. Et honnêtement, je trouve que la faculté apprend à être beaucoup plus humain que l'école de commerce, tu vois. Enfin, que l'école, c'est, encore une fois, hein, je crache pas du tout dans la soupe, hein. Mais vu que j'ai fait les deux, j'ai essayé de comprendre, si tu veux, les deux systèmes où je me suis dit, mais en fait, j'ai beaucoup plus grandi, moi, perso, en tant que, qu'être humain, hein, peut-être pas forcément en tant que femme, mais en tout cas, en tant qu'être humain, à la fac, que dans un environnement d'école où finalement t'es très biberonné, t'es très encadré, t'es très drivé, et du coup ça entretient ce truc de la bonne élève, tu vois, du bon point, de t'as vu, j'ai bien fait mon travail, du coup j'ai une bonne note, j'ai fait ça donc je suis valorisée, j'ai fait ça donc j'attends une reconnaissance. Et je crois que c'est beaucoup d'attentes en fait qui sont des sources de déception ensuite dans le marché du travail, parce que ton boss en fait il va jamais agir comme un professeur en fait.
Ouais, complètement. Bah, je pense que effectivement, la grande différence entre la faculté et l'école plus privée, c'est la responsabilité. C'est sûr que je pense que on te demande beaucoup plus d'être responsable au sens de prendre un peu les rênes de ton parcours à la fac. Je pense que c'est sûr. C'est clair. Après, je pense que donc c'est sûr qu'en fait c'est quelque chose qui ça peut énormément servir ensuite dans le monde du travail. Je pense le fait de d'avoir vraiment conscience que finalement au travail personne d'autre que nous ne pourra faire le boulot à notre place, c'est-à-dire le boulot de savoir où nous souhaitons aller, où nous souhaitons que le poste qu'on occupe nous mène, quelles compétences nous souhaitons acquérir, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment, qu'est-ce qui est notre véritable moteur, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, c'est-à-dire que personne ne fera ce raisonnement à notre place, et ensuite personne ne mettra en œuvre non plus les moyens d'y arriver. Et je pense qu'effectivement ça c'est peut-être une conscience qu'on prend plus quand on étudie dans un environnement un peu plus un peu plus libre, disons, ou un peu moins encadré, mais effectivement, je pense qu'en fait, moi, le grand contresens qu'on fait en rentrant dans le monde du travail, c'est ça, c'est de penser que quelque part les choses vont continuer à aller de soi. Et puis en fait, je pense que les années passant, le fait de ne pas prendre le temps de se poser ces questions et de ne pas comprendre quels sont les vrais leviers qui nous permettent d'avancer au travail, qui ne sont encore une fois commence avec le fait évidemment d'accomplir son travail, sa fonction, etc., mais ne s'arrête pas là, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on perd le goût et on perd le sens, on perd la direction, on ne sait plus pourquoi on fait les choses, et c'est là qu'arrivent les crises, j'allais dire, un peu existentielles qu'on voit partout autour de nous en ce moment, et pas que liées au contexte actuel, d'ailleurs, ça avait commencé bien avant, mais la souffrance au travail, la crise de sens au travail, je pense que c'est aussi lié à un état d'esprit hérité de l'école, qui est en fait un état d'esprit très passif.
Et alors, t'es d'accord avec moi, j'ai un peu l'impression que c'est décuplé là, n'est-ce pas, cette crise de sens?
Ah bah là, oui, je pense que... Non, je pense qu'il n'y a pas que toi qui penses ça. Je pense que les 2 mois de confinement, la crise qu'on est en train de vivre, je pense que c'est un effet accélérateur. En fait, c'est à la fois une loupe et un accélérateur, en fait, sur les mots de l'époque. Je pense que la crise de sens, elle était là. En fait, la crise de sens, c'est ni plus ni moins que le grand qui suis-je, où vais-je, hérité de l'Antiquité. Mais disons que je pense que c'était particulièrement aigu depuis le début du siècle, parce que je pense qu'il y a effectivement et particulièrement fort dans le milieu professionnel, parce qu'il y a une espèce de perte de direction. On ne sait plus pourquoi on fait les choses. Les fonctions les plus valorisées ne sont pas celles qui contribuent le plus à la société, au fait de façonner le monde. C'est des professions qui bien souvent sont assez décorrélées de l'économie réelle, de la vraie vie. Et nous, en tant qu'individus, dans le salariat notamment, on est à la fois victime de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire de fait de faire perdurer un système de valeurs qui n'est pas adapté au monde professionnel, et en même temps on est aussi victime d'une forme d'infantilisation du système, parce que le salariat c'est un système très infantilisant. Et du coup, en étant infantilisé comme ça, et je dis infantilisé parce que c'est le fait d'accepter de se laisser driver par les critères de réussite qu'on nous dicte, ou les critères de réussite de son entreprise, de son chef, de pas prendre la main soi-même sur son parcours, parce qu'au final, dans le salariat, t'as pas tellement besoin pour, jusqu'à présent, en fait, t'avais pas tellement besoin de te poser la question de savoir pourquoi tu faisais les choses pour finalement avoir des augmentations à peu près régulières, de progresser dans la vie, de pouvoir t'acheter un plus grand appartement, une plus grande voiture, etc. Et puis au final, tu étais sur des rails, voilà. Nous, on appartient, je pense, à une génération où le modèle est en train de changer. Ça a beaucoup moins de sens, si tu veux, de rester comme ça dans le salariat enfin voilà, il y a une crise de ce modèle-là du salariat parce qu'on voit bien que ça ne nous permet plus, c'est plus satisfaisant. On est obligé, en fait, à un moment, de se poser la question de savoir pourquoi on fait les choses et d'essayer de reprendre la main sur son parcours. Et moi, je crois qu'effectivement, la crise là qu'on est en train de vivre, c'est une espèce d'accélérateur fantastique parce que, en fait, ça nous met face à l'absurdité du système d'une manière très très brutale, très très brutale.
C'est vrai. Enfin, excuse-moi, mais j'ai un moment d'hésitation parce que je me dis. Même moi, en fait, je me suis posé des questions existentielles profondes, si tu veux, alors que je pensais déjà avoir commencé le travail, je pensais déjà avoir fait la recherche, mais c'est vrai que je me suis vraiment... moi, cette période, elle m'a vraiment sidérée dans tous les sens du terme. Donc, non mais attends, je voudrais qu'on revienne sur le travail et la femme. Moi, j'avais retenu, excuse-moi, je passe du coq à l'âne, mais c'est un peu mon grand truc... Simone de Beauvoir a dit un jour « Il n'y a qu'un travail autonome qui puisse assurer à la femme une authentique autonomie ». Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité selon toi?
Qu'est-ce qu'elle entend par travail autonome, Simone de Beauvoir?
Ah ben voilà, c'est la même question que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, un travail autonome, pour moi, c'est justement ça. Je crois que c'est important de définir l'autonomie aujourd'hui parce que ça implique les relations à l'autorité, ça implique les relations hiérarchiques. Tu vois, je crois que c'est plutôt... Quand elle parle d'autonomie, je crois que...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est vraiment un truc genre... Enfin, moi, je l'interprète comme ça. Après, il faudrait lui demander, mais... Un travail autonome, c'est au sens délié de liens hiérarchiques ou délié d'une sorte de cadre présupposé. Bon, c'est à recontextualiser, je pense, dans une époque qui avait encore beaucoup d'industrialisation, beaucoup de travail à la chaîne. Enfin, tu vois, il devait certainement y avoir dans le terme travail autonome, peut-être qu'elle entendait indépendant du monde de l'entreprise tel que l'entreprise était à l'époque où elle a dit cette phrase qui était donc il y a bien longtemps. Malgré tout, j'ai quand même un problème, moi, entre... pas un problème, mais je me dis, est-ce qu'une femme, quand c'est une femme qui a des enfants, un mari, est-ce que le salariat, est-ce que c'est toujours compatible, en fait, avec la femme d'aujourd'hui? Voilà, c'est la question que je me pose.
Je comprends. En fait, la question de l'autonomie, moi, je la comprends comme une autonomie presque mentale, presque psychique. C'est-à-dire la capacité, une fois de plus, à trouver son territoire de liberté dans un cadre. La philosophie des règles du jeu, c'est ça. C'est de se dire, compte tenu de l'environnement dans lequel j'évolue, compte tenu de ma vie aujourd'hui, comment je fais pour reconquérir ma liberté d'initiative, voilà, et de l'exercer pleinement pour être sûr d'avoir la main sur mon parcours. Et c'est-à-dire avoir la main, ça veut dire ne pas subir, en fait, ne pas être ballotté par les événements, parce que c'est là que la crise commence. Et une fois qu'on est arrivé, qu'on comprend l'environnement dans lequel on évolue, qu'on arrive à, évidemment, il est toujours contraint ce périmètre de liberté, mais une fois qu'on arrive à l'identifier, à l'explorer, ensuite se poser évidemment la question de savoir si on est au bon endroit, si l'environnement qu'on occupe est compatible avec nos valeurs, avec nos priorités, avec notre vie personnelle, etc., etc. Pour moi, ça, c'est vraiment le point de départ fondamental. Et en fait, je pense que cette question-là, elle est terriblement actuelle parce que c'est comme ça que je comprends l'autonomie. L'autonomie, je la comprends comme une manière de s'affranchir
du cadre imposé,
des modèles de réussite imposés, des diktats en tout genre auxquels on est soumis. dans le monde du travail et dans l'équilibre qu'on est censé trouver entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et là, effectivement, je trouve, parce que évidemment, je pense que Simone de Beauvoir, quand tu replaces dans son contexte historique, il y avait aussi évidemment la dimension, qui est toujours très actuelle d'ailleurs, d'autonomie financière. Donc en fait, pour pouvoir être finalement autonome et libre financièrement, il fallait avoir ce fameux travail autonome. Je pense que t'as raison dans son contexte à elle, et quand on replace dans le contexte du salariat de l'époque, etc., c'était certainement, je pense, de s'affranchir complètement d'une forme de patriarcat que tu pouvais retrouver à tous les échelons, y compris dans le salariat, etc., et que finalement, la seule manière d'être vraiment indépendante financièrement et mentalement pour une femme à l'époque, c'était sans doute de faire comme ce qu'elle avait fait, c'est-à-dire de s'affranchir de toute structure. Aujourd'hui, heureusement, on a beaucoup progressé. Et je pense qu'une femme peut être libre, y compris dans le salariat. Et en fait, moi, je trouve que c'est... En fait, j'ai pas du tout envie de tomber dans la dérive inverse qui consiste à dire le seul salut, c'est l'entrepreneuriat. Le seul salut, c'est la vie d'indépendant. En dehors de ça, c'est l'enfer. C'est la crise de sens assuré, etc. Moi, je crois pas à ça. Parce que tout simplement, je pense que tous les modèles peuvent coexister, parce que je pense pas que l'entrepreneuriat ou la vie d'indépendant soit l'eldorado de tout le monde. Je pense qu'il y a des tas de gens qui sont ravis d'être salariés, qui sont ravis d'avoir une somme d'argent qui tombe à la fin du mois tous les mois, qui préfèrent concentrer leur énergie, tu vois, sur autre chose que sur le fait d'aller chercher des clients ou de se poser la question de savoir combien ils vont gagner le mois prochain. Et moi, je trouve qu'ils ont totalement, enfin que tout est valide. Simplement, l'essentiel, c'est d'arriver dans ce cadre imposé à reconquérir son autonomie. Son autonomie de penser, son autonomie d'agir, et son oui, c'est ça, de vraiment ne pas subir les événements, savoir pourquoi on est là et pour quelles raisons on exerce la fonction qu'on exerce, et à partir de là vivre sa vie professionnelle complètement différemment. Reprendre la main, c'est le début d'une révolution intérieure totale. Moi, bien le sûr. Jour où j'ai compris que, j'ai renversé complètement les perspectives par rapport à mon travail, et j'ai compris que j'avais beaucoup plus la main sur les circonstances que ce que je pensais. Ça a, mais complètement, c'est comme une prise de judo. Tu renverses la force et tu la tournes à ton avantage, en fait. Et à l'intérieur, du coup, de cette fonction-là, qui semble très rigide et qui l'est quand même, il faut pas se leurrer, hein. Le salariat, c'est quand même un cadre. Et ben, t'arrives quand même à t'aménager un espace d'initiative, à l'explorer et finalement à façonner ton parcours au plus près de ce que tu es et de ce que tu peux tirer de la fonction que t'occupes. Et ça, c'est déjà énorme, quoi. Et pour revenir au contexte, je pense effectivement qu'on est dans un contexte hyper favorable pour ça, pour mettre en œuvre ça, parce que je pense que les gens, ils ont soif de le mot sens, il est presque galvaudé maintenant, mais si tu veux, c'est toute cette histoire d'autonomie, c'est-à-dire de s'affranchir de la dimension infantilisante que peut avoir un parcours professionnel, de se re-responsabiliser. En fait, c'est la réflexion qu'on peut avoir à l'échelle de la société. Elle est très vive au niveau de la vie professionnelle, parce qu'en fait, le Covid, là, le confinement, ils nous ont mis face à quoi ? Il nous a mis face à un système complètement essoufflé et absurde. C'est-à-dire, on en est arrivé à une situation tellement absurde. C'est l'expérience de l'absurdité, mais au maximum. Je pense que personne, enfin, c'est le pire scénario de science-fiction qu'on a vécu. Pourquoi? Parce que le système qu'on a mis en place est tellement fou que la seule manière à un moment donné qu'on a trouvé de le faire perdurer, c'est de mettre nos vies en suspens. Mais ça n'a aucun sens. Donc, quand on est mis face à des tels, enfin, ça a ouvert une brèche incroyable, je pense, je pense qu'on commence à peine, en fait, à mesurer les conséquences que ça peut avoir, d'ailleurs, à un niveau collectif et individuel. On est vraiment tout au début. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, enfin, ça va permettre à beaucoup de gens de, justement, gagner en autonomie dans le sens où maintenant, ça devient absolument insupportable. Enfin, ça va vraiment accélérer les prises de conscience sur le fait que, en fait, il y a plus de temps à perdre sur le fait de savoir pourquoi on a organisé notre vie de telle manière, pourquoi on occupe telle fonction dans la société, quelle fonction on a envie d'occuper dans la société, quelle tournure on a envie de donner à nos vies, etc. Et ça va se traduire, je pense, au niveau professionnel, soit par des décisions radicales, soit par une prise justement d'autonomie très très forte. Et d'ailleurs, le télétravail dont on parle beaucoup en ce moment favorise ça. Le télétravail, c'est la prise d'autonomie des salariés, c'est une prise de pouvoir énorme. Alors, ça n'a pas que des avantages, on pourra en parler si tu veux, mais c'est quand même, je trouve, un terrain de liberté énorme où tout à coup, en fait, on cesse d'être juste un salarié. Tout à coup, le fait de plus être présent physiquement sur ton lieu de travail, de pouvoir administrer un peu plus librement ton temps, de mettre un peu fin aux faux-semblants aussi, parce que mine de rien, quand t'es à distance, c'est plus difficile de tromper tout le monde, hein. Il y a un moment où il y a les résultats, il y en a où il y en a pas, etc. Je pense que ça peut faire tomber beaucoup de masques, le télétravail, et ça peut aussi permettre aux individualités de s'exprimer davantage. Quand par exemple, tu vois, tu donnes plus de liberté aux gens pour définir l'équilibre qu'ils veulent avoir entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Tu leur laisses plus d'autonomie, encore une fois, sur la manière d'administrer leur journée, leur semaine, etc. Et tout à coup, les individus, c'est-à-dire tu laisses plus de place à d'autres facettes de la personnalité des gens que la simple facette professionnelle. Et ça, je trouve que c'est hyper important, quoi.
Alors oui et non, parce que si tu veux, nombre de femmes prennent aussi le travail physique, le déplacement géographique dans un lieu de travail comme un échappatoire. Parce que si tu veux, il y a un moment, elles sont ravies de quitter les trois gosses, de les filer à la nounou, ou de les mettre à la crèche, ou de les mettre... Enfin, le travail physique, tu vois, le lieu, le fait d'aller de chez soi à un lieu physique pour aller travailler. Moi, je le sais, j'ai des copines dont c'est le cas. Elles me disent, moi, je suis ravie de quitter la maison pour aller respirer, prendre l'air et me dire que, voilà, moi, j'ai mon espace à moi et que quand je rentre le soir, c'est un autre espace avec mes enfants. Mais voilà, je crois qu'en fait, les gens ont été aussi un peu déstabilisés par ça parce que, surtout les femmes, je crois, tu vois, parce que elles ont besoin de ce sas physique, tu vois, je crois. Enfin,
non, peut-être ça, pas tout, hein. Ça, je suis complètement d'accord. Non, mais je pense que le télétravail. Enfin, moi, je sais que. Enfin, je suis en contact avec pas mal d'entreprises, etc. Et il y en a qui, bon, dans une logique aussi de coupure de coûts, etc., envisagent de systématiser le télétravail ou de l'étendre, etc. Je pense pas du tout que ce soit. Parce qu'en fait, le télétravail, tu mets fin à la séparation physique entre vie pro, vie perso, la fin de la sociabilisation au travail. Non, mais de toute façon, c'est des enjeux, moi, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que les femmes, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont été un peu rattrapées par la domesticité pendant ces deux mois. C'est clair.
C'est clair. Elle a bouffé, elle fait les devoirs.
Fait l'école, exactement.
Elles m'ont sidérée. Cette capacité qu'elles ont eue à relever le challenge de faire l'école, faire à bouffer, s'occuper du mari, s'occuper de son boulot. Enfin, là, c'est quand même une ère qui nous a... Enfin, les 55 jours qu'on a vécu, c'est quand même un truc qui nous a donné des leçons de vie en tant que femme. Parce que, enfin, moi, je suis pas concernée, mais quand t'as trois enfants, un travail, un mari et trois enfants d'âge différent, je me dis, mais attends, il faut leur filer une médaille, parce que c'est...
C'est clair. Mais d'ailleurs, il me semble que c'est challenge... Ouais, complètement. Mais il me semble que c'est Challenge là qui a publié une étude sur l'état mental de la population post-confinement et qui disait, enfin, les femmes sont beaucoup plus susceptibles de faire une dépression en post-confinement que les hommes à cause de ça. À cause de cette surcharge mentale délirante qu'elles ont dû subir pendant deux mois. Et tu peux avoir un contre-coup assez important, l'épuisement en fait. C'était une période absolument épuisante pour toutes les femmes qui avaient à charge des enfants à la maison, c'est sûr. En fait, évidemment, il s'agit pas. Le télétravail, c'est pas du tout la panacée. Mais simplement, en fait, c'est des changements de société tellement profonds. Après tu peux imaginer que en fait une flexibilité plus grande sera permise, y compris dans le salariat, et que quand les femmes qui ont la chance de pouvoir avoir de l'aide par exemple à la maison, ou qui s'organisaient d'une certaine manière pour pouvoir faire garder leurs enfants quand les crèches, etc., quand même, et bien ces femmes là en fait pourront aussi bénéficier d'une plus grande flexibilité dans l'administration de leur temps. Tu vois, je pense que c'est toujours moi en fait l'aspect qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est l'aspect vraiment adulte en fait par rapport à ta vie professionnelle, à ne plus en fait subir forcément un cadre rigide juste parce qu'il existe, et d'avoir la possibilité d'imposer tes règles du jeu justement à toi, ou tes règles de vie, d'arriver vers ton chef et dire voilà qui je suis, moi dans ma vie j'ai telle contrainte, tel soir il faut que je sois partie à telle heure. Tu vois, c'est ça en fait. C'est une manière de reprendre la main de cette manière-là, en arrivant en disant je ne suis pas juste un salarié qui doit me plier parce que la culture d'entreprise le veut, mais maintenant cette brèche qui s'est ouverte me permet d'aménager un espace de liberté plus grand qui me permet moi de mieux vivre ma vie professionnelle et d'être plus efficace et d'être moins, voilà. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Et je pense que ça, même dans la tête des managers, dans la tête de beaucoup de structures, contre, de gré ou de force, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient préféré ne pas, mais je pense que là, ça va être difficile de revenir en arrière et ça va être difficile de dire non à des gens qui vont dire, mais moi, j'ai besoin d'être en télétravail ou moi, j'ai besoin de gérer ma journée autrement, etc. Parce que, voilà, c'est irréversible ce qui s'est passé.
Est-ce qu'on peut parler un peu de la réussite? Parce que tu abordes le sujet dans ton livre de manière très intelligente, d'ailleurs, parce que, moi, j'ai souvent vu des gens tristes au travail et tristes soit parce que le modèle de réussite, finalement, qu'on a, nous, femmes, je pense qu'il est quand même relativement calqué sur des schémas patriarcaux, enfin, tu vois, d'une société assez, finalement, masculine. Encore une fois, je ne monte pas un camp contre un autre, c'est pas du tout l'idée. Je dis juste que nos modèles de réussite... Pour ne citer que mon exemple, pour réussir, il fallait avoir un titre honorifique, intégrer un COMEX, gagner de l'argent, beaucoup d'argent, avoir une sorte de, tu vois, de statut social, on va dire reconnu. Bon, moi j'avais ça, tu vois, dans la tête. Alors après, chacune son modèle de réussite, mais je crois quand même que je suis pas la seule. On peut quand même souvent assimiler la réussite au gain d'argent. Bon, et je me suis rendu compte que je m'étais trompée, hein, parce que ça me rendait pas pour autant très heureuse, mais tu expliques assez bien, justement, dans ton livre, qu'il faut définir sa propre notion de la réussite, mais je trouve que c'est plus compliqué quand on est une femme que quand on est un homme. Est-ce que je me trompe?
Je pense qu'effectivement, moi, je suis tombée dans le même travers. Je suis tombée dans le même piège que toi. C'est-à-dire que moi aussi, je pensais que réussir, c'était ça. C'était, je pense, que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai embrassé la voie que j'ai embrassée au début, hein, parce que ça cochait toutes les cases. Il y avait un nom prestigieux, il y avait un salaire, il y avait des responsabilités, et puis il y avait beaucoup de critères dits masculins, de performance. Donc moi, j'ai embrassé ce truc-là complètement, sans me rendre compte peut-être que j'allais tête baissée dans une espèce de profession hyper alpha.
Alpha, c'est, tu entends quoi par alpha?
Oui, c'est ça, ouais, très masculin, si tu veux, limite une caricature des critères masculins. Le trading, c'est quand même, t'as la performance, t'as l'argent, tu vois,
c'est un peu du, enfin, c'est comme les salles de marché ou,
c'était ça, c'est les salles de marché, donc c'est vraiment, voilà, t'as un côté vraiment très, oui, c'était limite une caricature, donc moi j'ai versé là-dedans à 200% au début, et comme toi, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée. Je pense qu'en fait le gros challenge pour les femmes et les hommes, mais peut-être encore plus pour les femmes effectivement, c'est d'arriver à s'affranchir de ces critères dominants, j'allais dire, pour définir soi-même encore une fois son périmètre et surtout la direction qu'on veut donner à son parcours. Moi, la manière dont je définis la réussite dans le livre, c'est ça, c'est de dire bah réussir, c'est aller là où on a envie d'aller, ni plus ni moins. Et cette définition-là.
Oui, mais c'est compliqué de définir où est-ce qu'on veut aller, parce que tu vois.
Oui, mais parce qu'en fait, c'est une définition qui est mouvante aussi, évidemment. C'est pas une définition figée dans le temps. C'est une définition qui peut évoluer à tout moment. L'essentiel, en fait, finalement, pour ne pas être en situation d'échec, plus qu'à rechercher la réussite, c'est comment ne pas se mettre soi-même en situation d'échec. C'est toujours se poser cette question de savoir, mais pourquoi je suis là, au fait? Qu'est-ce que je fais là? À quoi ça rime? Cette fonction-là, où elle me mène? Parce qu'en fait, on a tendance à perdre de vue que la fonction qu'on occupe, elle doit nous mener quelque part. On n'occupe pas un poste pour la beauté du geste. On n'occupe pas un poste pour faire plaisir à quelqu'un. On occupe un poste parce qu'il nous sert, parce qu'il nous mène quelque part. Parce qu'il nous apprend des choses, parce qu'il il ouvre nos horizons, parce qu'il nous fait rencontrer des gens. C'est la seule raison pour laquelle on occupe un poste. Évidemment, on reçoit un salaire accessoirement. Mais je veux dire, le fait déjà d'avoir la conviction d'être en phase avec nos objectifs, même si c'est des objectifs de court terme, même si c'est des tout petits objectifs qui sont pas des, c'est déjà une manière d'enclencher sa réussite pas à pas. Parce qu'en fait, le problème de ne pas faire ça, c'est-à-dire de ne pas prendre le temps de définir pour soi-même ce qu'on veut et de perdre de vue ce pour quoi on occupe un poste. Ça, c'est la clé, en revanche, de la déroute. Parce que c'est comme ça qu'on perd de vue la direction qu'on souhaitait suivre au départ, et donc le sens. Et c'est là que le travail perd complètement de son sens. Et donc, en fait, cette notion de réussite, elle commence là. Elle commence avec le fait, mais c'est effectivement extrêmement compliqué, de se demander, mais de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de tirer de ce poste? Voilà. Ouais. Et après, en cheminant, on ajuste, évidemment. Et parfois, on fait des changements de braquet radicaux, comme moi, ça m'est arrivé.
C'est ça qui est le plus important, c'est de ne pas obéir, enfin, c'est pas répondre aux sollicitations, parce que je crois que moi, si je devais mettre en garde, et je crois qu'on a un peu le même ressenti, c'est que des sollicitations, on en aura toujours et on peut toujours en avoir, mais dès lors que on se met dans le, tu vois, dans le flow du travail. Mais je crois que ce qu'il y a de plus dur en tant que femme, en tout cas moi, je pense que j'ai fait cette erreur, c'est de me laisser porter par les opportunités. Mmh. Alors ça a été merveilleux en même temps parce que j'ai connu des trucs et enfin j'ai fait des trucs géniaux et j'ai adoré tout ce que j'ai fait, mais j'avais pas l'impression d'être décisionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, j'avais pas le sentiment, enfin, je disais oui, mais sans but. Tu vois, j'avais pas derrière la tête, j'avais jamais une, enfin, si, j'ai dû l'avoir une fois, mais j'ai pas tenu. Mais c'est assez compliqué, tu vois, de se donner une ligne directrice, en fait.
Ouais.
Sauf la génération des jeunes femmes qui ont 20 ans aujourd'hui. Alors, elles, moi, je sais
ouais,
pas.
Ouais, elles savent ce qu'elles veulent. Ouais. Ouais. Vois, moi aussi, je suis très impressionnée. Je les trouve incroyablement libres d'esprit. Ouais, pareil.
Enfin, on est complètement. Moi, je me souviens, mais moi, je sais pas, à 25 ans, j'étais pas du tout comme ça.
Ouais, pareil.
Elles savent exactement ce qu'elles veulent. Elles ont une espèce de ligne directrice hyper claire.
Je pense que c'est lié à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu le délitement du modèle dominant classique c'est du salariat. C'est-à-dire, je pense elles ont compris depuis très longtemps que c'était pas par là que ça se passait. Que c'est pour elle, bah, il allait falloir inventer autre chose, voilà, que ça se passerait ailleurs, que peut-être il faudrait multiplier les sources de revenus parce que une source de revenus, voilà. on peut pas tabler là-dessus. Ouais. C'est un autre monde, quoi. Et alors, du coup, bah, je pense qu'elles sont beaucoup plus libres et beaucoup plus. En tout cas, je pense qu'elles ont adapté leur mindset professionnel au contexte qui est de moins en moins. C'est sûr que c'est de moins en moins les voies classiques, disons, sont de moins en moins attirantes, quoi. Mais moi aussi, je suis très impressionnée par cette génération. Ouais. Je suis complètement d'accord.
D'ailleurs, je voulais te poser une question, parce que tu parlais de revenus. Moi, je crois vraiment qu'on va devoir demain avoir 3 sources de revenus. Je pense que le travail ne sera plus d'abord proportionnel à nos besoins, mais sera peut-être plus suffisant pour vivre. Voilà. Je crois que, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'argent issu du travail ne sera peut-être plus suffisant si on n'en a qu'un. Donc, du coup, on va devoir multiplier les sources de revenus.
Ou ajuster son niveau de vie. C'est-à-dire, alors, ou ajuster la manière
de moins consommer, peut-être moins voyager, en l'occurrence, parce que là, on y est obligé. Mais, et c'est pas plus mal. Non, je pense qu'il y a un sujet que je voulais aborder avec toi, c'était le revenu universel. Tu sais, Gaspard Koenig, t'en as entendu parler ?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que t'en penses de cette idée ?
Moi, je suis quand même assez je suis assez libérale moi dans l'esprit. Je suis assez pour un libre équilibre, si tu veux, offre et demande, parce que je trouve que c'est ça aussi qui laisse une vraie liberté de choix dans la vie. Mmh. Donc, je suis très attachée à ma liberté en général et à ma liberté de choisir et de donner à ma vie, qu'elle soit professionnelle ou pas, les contours que je veux. Pour moi, ça, c'est vraiment un critère absolument essentiel. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse plus comme idée, c'est effectivement, dans les mutations de la société et du monde du travail, c'est davantage de me dire, voilà, clairement, le modèle dominant me convient plus. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les options à ma disposition? Si j'ai envie d'avoir un niveau de vie très élevé, eh ben, c'est à moi de me débrouiller pour trouver des alternatives, c'est-à-dire de multiplier effectivement les sources de revenus, d'aller chercher ailleurs, d'être créative, etc., de créer un business à côté, par exemple. Enfin, il y a mille manières de faire. Et je trouve d'ailleurs que pour revenir à la génération des jeunes femmes de 20 ans, c'est des leçons de créativité en permanence parce que c'est des business qui fleurissent à droite à gauche. Toi, t'avais même pas vu le truc venir et en fait, c'est ultra florissant. Donc, enfin, il y a plein de possibilités, quoi. Donc moi je suis plutôt attachée à ça, et à l'inverse, quelqu'un qui dit mais en fait à quoi bon, à quoi ça rime, finalement moi je suis très heureux avec X 1000 euros par an, j'ai pas besoin de plus, je déménage, je change de vie complètement, je passe plus de temps avec mes enfants, peu importe, tu vois. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt la diversité de choix et la possibilité de façonner sa vie à son image. C'est ça qui me dérange un peu dans tout le monde à la même enseigne et les revenus universels. C'est, je trouve que je suis plus intéressée par le fait de, finalement, de, encore une fois, hein, ça rejoint la même idée directrice depuis le début, qui est l'autonomie, encore une fois, et le côté vraiment responsabilité de chacun, et prise de pouvoir, finalement. Parce que responsabilité, c'est de la prise de pouvoir. Le jour où tu comprends qu'il y a personne ne peut le faire à ta place, c'est aussi le moment où tu dis, bah voilà ce dont moi j'ai envie pour ma vie. Et là, ça change tout. Et en fait, cette liberté-là, cette manière-là, d'envisager l'existence en général et tes choix professionnels en particulier. Moi, c'est ça que je trouve intéressant et c'est ça que je trouve fascinant dans la période qu'on est en train de vivre. Parce que je pense qu'autour de nous, on n'a pas fini de voir ce que... Enfin, on ne sait pas ce que... En fait, ces deux mois, on n'a aucune idée de ce que ça fait germer chez les uns et les autres. Peut-être qu'on récoltera ça que dans des mois, des années, on ne sait pas. Mais moi, je pense que ça aura forcément des impacts au niveau individuel, bon, collectif, on n'en parle même pas, mais individuel, insoupçonné. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se révéler. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant. Donc, la liberté de choix, je crois que c'est...
Et les mères au foyer rémunérées, alors je mets les pieds dans le plat avec une proposition. Non, mais je me suis toujours posé cette question, parce que malheureusement, ça a été repris par l'extrême droite, donc j'en suis pas ravie, mais j'avoue m'être posé la question. Je me suis dit, est-ce que les femmes au foyer qui décident d'élever leurs enfants, d'en élever trois, parce que c'est un job... Enfin, en soi, même si personne veut le reconnaître, et parce qu'on croit que c'est naturel, etc., non, c'est pas forcément naturel, tu vois, de s'occuper d'enfants toute la journée. La preuve en est, on paye des nounous. Est-ce que c'est envisageable? Enfin, toi, t'en penses quoi de payer les femmes au foyer?
Moi, je suis complètement pour. Je suis complètement pour parce que je trouve que, en fait, au-delà du fait que ce soit pénible et un vrai travail à plein temps, ça a une vraie fonction économique. Il faut pas se leurrer. C'est pas, c'est de la vraie création de valeur d'élever des enfants. Seulement, c'est de la création de valeur indirecte. Mais moi, je trouve que c'est le fait de s'occuper de ses enfants à domicile, tu contribues autant à la société que, voire plus, en fait, beaucoup plus que de faire un bullshit job payé, tu vois, X mille, voilà. Je trouve qu'en fait, c'est ça, bon, et s'il y a encore une fois quelque chose que nous a révélé, la crise, là, c'est quand même que les vraies fonctions, c'est-à-dire les fonctions... C'est Pascal, je crois, qui disait le choix le plus important d'une vie, c'est le choix d'un métier. À son époque, lui, un métier, c'était un vrai métier. Ça veut dire avocat, médecin, une vraie fonction dans la société qui contribue, quoi, au monde, au fait de faire façonner le monde, de façonner le monde, etc. Aujourd'hui, en fait, le choix d'un métier, c'est souvent des choix par défaut. Alors, t'as des choix passion. Mais en fait, les choix passion sont les choix les moins rémunérés. Et en fait, on l'a vu là pendant la crise, les gens qui choisissent d'être médecin, d'être... Bon, ça, c'est pour les gens qui ont le choix, évidemment. Puis après, t'as tous les gens qui exercent des fonctions qui sont essentielles à la bonne... à la tenue, à la propreté, etc. C'est des professions qui sont absolument pas valorisées. Et les professions les plus valorisées et les mieux rémunérées sont celles qui, finalement, contribuent le moins... sont pas des métiers, sont des fonctions, en fait. Les métiers sont moins payés, il y a une paupérisation terrible de je sais pas, journaliste, avocat, médecin, etc. En revanche, quand tu fais du trading, voilà, et quand tu fais du trading de dérivés de taux d'intérêt, là c'est jackpot, tu vois. Et là, il y a quelque chose qui va pas. Là, il y a quelque chose qui va pas, et à mon avis, il peut y avoir un rééquilibre aussi dans ce sens-là. Et donc, pour revenir à la question des mères au foyer, moi, je trouve, philosophiquement, je trouve que ça a énormément de sens. Économiquement, ça a du sens aussi, d'élever des enfants, de faire tourner un foyer, de permettre aussi au foyer d'économiser une nounou pour... Enfin, tu vois, je veux dire, il y a plein de manières de calculer, c'est difficile de dire combien tu fais gagner à la société, mais enfin, ça a une vraie fonction sociale, finalement, si tu rémunères une nounou, enfin, voilà. Ouais. Mais en plus de rémunérer les personnes qui contribuent à façonner le monde dans lequel on vit, moi, je trouve ça normal. Ouais.
Je suis entièrement d'accord. Clara, le temps passe vite avec toi. Est-ce que tu aurais un coup de gueule et un coup de cœur à communiquer? Ça peut être le coup de gueule, tu peux ne pas en avoir, hein, c'est totalement envisageable. Et le coup de cœur, ça peut être... absolument tout ce que tu veux. Ça peut être une série que tu as regardée pendant le confinement, ça peut être un film, ça peut être une musique, ça peut être un livre. Et puis tu peux ne pas en avoir, hein. Il n'y a pas de problème.
Non, là, j'ai pas de coup de gueule.
Ok, pas grave.
J'ai pas de coup de gueule à passer.
Moi, j'aime bien. J'aime bien aussi quand on n'a pas de coup de gueule, je trouve ça cool.
Et un coup de cœur. Là, non. Et un coup de cœur, oui, un coup de cœur, je peux te dire une musique. Voilà, ouais. une musique que j'ai bien aimée, qui m'a bien accompagnée pendant le confinement, Curtis Mayfield. Move On Up, par exemple, qui donne envie de danser, qui met de bonne humeur, voilà.
C'est vrai qu'elle file la pêche, cette musique. Elle est utilisée dans une pub en ce moment, je crois. Je l'ai entendue à la télé.
Ouais. Ah bah tu vois, voilà.
Et un autre coup de cœur que j'ai en ce moment, c'est une BD. Alors, je sais pas s'il y a des amateurs de BD parmi les auditeurs de Réel, il y en a sans doute, et c'est valable pour les autres aussi d'ailleurs. C'est une BD sur la Révolution française, qui s'appelle Révolution, et qui est absolument démente. En fait, c'est une BD qui nous place, nous lecteurs, aux premières loges des événements de la Révolution. Donc on a l'impression de la vivre. On se balade dans les rues de Paris, on est dans les cafés, on entend les débats, on est sur les barricades, on voit ce qui se passe dans toutes les strates sociales parce qu'ils ont choisi des héros du petit peuple, de la bourgeoisie émergente, dans l'aristocratie. Donc on voit tous les angles. Et c'est extraordinaire. T'es complètement prise du début jusqu'à la fin. Vraiment, je le conseille à tout le monde. Ça s'appelle donc Révolution par Groisel et Locard. Et c'est absolument dément. Vraiment.
Bah écoute, Clara, est-ce que t'as des choses à ajouter, par exemple? Je ne sais pas, est-ce que t'as envie d'ajouter quelque chose? Parce que peut-être que la tournure de l'interview ne t'a pas laissé l'occasion de dire un truc qui te tenait à cœur.
Non, pas du tout. Non, je pense qu'on a parlé de plein de choses, passionnantes. Je pense qu'en fait, on vit une époque. Moi, je suis assez contente de vivre ce qu'on vit, même si je pense que on n'est pas au bout de nos défis là. Je pense que c'est un peu un privilège de voir la fin d'un monde et le début d'un autre, parce que moi, je suis assez convaincue que c'est ce qui est en train de se passer, même si c'est pas facile à vivre. Et je pense qu'en fait il dépend que de nous de faire quelque chose de ce moment-là, voilà. Et moi, toute ma philosophie, et je pense qu'en fait le monde du travail est vraiment aux avant-postes là du changement un peu de société qu'on est en train de vivre. Donc ça va être passionnant à voir, et surtout je pense le fait de prendre conscience qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur les circonstances que ce qu'on croit parfois. Je pense que c'est peut-être ça ce qu'on a de mieux à tirer de cette période-là. Et avec les règles du jeu, moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire en zoomant évidemment beaucoup sur le monde du travail. Mais je pense que c'est valable aussi pour toute la société. Donc, c'est un message qui est plus actuel que jamais, quoi.
Mmh. Eh bien, écoute, merci mille fois, Clara. Je vais rappeler le nom de ton livre, qui s'appelle « Les règles du jeu ». C'est aux éditions Duno.
Oui.
Je recommande vivement sa lecture, qui est tellement simple en plus, c'est tellement agréable, parce que c'est vraiment un outil pratique, léger, facile à lire.
Oui, tout à fait.
Et ensuite, je parle aussi de ta newsletter, que je trouve très sympa. Tu peux dire comment on fait pour s'inscrire et pour la lire?
Ah oui, les billets de quarantaine. Alors, les billets de quarantaine,
là,
c'était une édition.
Il n'y a plus de quarantaine, mais...
Il n'y a plus de quarantaine.
Une forme.
Voilà, peut-être, tout à fait. Donc, c'est très facile pour s'abonner. Il suffit d'aller sur la page des règles du jeu, qui s'appelle www.lesreglesdujeu.co. Donc, il suffit de laisser son email là. Ouais. Et en fait, c'était des billets d'humeur pendant la quarantaine, qui sont toujours disponibles à l'écoute et, à mon avis, d'actualité pendant un certain temps encore. Donc, pour avoir un avant-goût, c'est là-bas.
Génial, Clara. Un immense merci pour ton temps. Je te souhaite une excellente continuation et à très vite. Je t'embrasse.
À bientôt. Merci beaucoup.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.